Chronique la Benevolentia, aujourd'hui les thèmes qui sera exploité, nous allons parler d'un problème du viol, la question que l'on se pose, pourquoi dans des conflits des groupes comme les violences interethniques, certains membres des groupes se livrent-ils au viol? Nous en parlons aujourd'hui et cette chronique aujourd'hui partira de la ville de Lubumbashi.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Au Katanga, des centaines de femmes ont été victimes de viols et violences sexuelles pendant la période de la guerre. D'après des témoignages, des auteurs seraient principalement des hommes en armes. Ceux-ci posaient ces actes soit pour humilier les femmes, soit encore pour se venger sur l'adversaire. Certaines de ces victimes ont perdu leur foyer, d'autres leur famille. Nous faisons le point à ce sujet avec notre consoeur Denise Maéo à partir de Lubumbashi. Denise, bonjour.
Bonjour, Jody Kassama.
Alors, depuis la guerre au Katanga, depuis la guerre au Katanga était finie il y a déjà quelques temps, mais les conséquences, on en parle encore. Et parmi ces conséquences, il y a des cas de viol. Quelle avait été la situation, Denise?
Oui, Jody, pour parler de viol et violences sexuelles à l'époque des affrontements entre différents groupes armés au Katanga, nous allons illustrer cela en prenant l'exemple de la ville de Kalemi et du territoire de Mitoaba, tout en sachant que des cas de viol ont également été enregistrés dans les autres contrées de la province.
Oui, Denise, prenons d'abord le cas de Kalemi.
Oui, Kalemi avait accueilli plusieurs forces et groupes armés, c'est notamment l'armée congolaise, le mouvement rebelle à l'époque c'était le RCD et les Mai Mai. D'après l'ONG Termitière, c'est une ONG locale basée à Kalemi, des centaines de cas de viol de femmes ont été enregistrés. Et c'est seulement plus tard que les victimes pouvaient se permettre de les dénoncer. Et à cette époque, les auteurs étaient principalement des hommes en armes. Je vous propose d'écouter Madame Geneviève Nzougou de l'ONG Termitière, que nous avons joint au téléphone, et nous fait ici un témoignage.
Dans notre ville, nous avons connu beaucoup de cas de violences sexuelles pendant la guerre. Et dans notre association, nous avons rencontré beaucoup de ces femmes-là. Ces femmes étaient surtout violées du côté des villages en allant puiser de l'eau à la rivière. C'est par là qu'elles ont été violées. Et ces femmes, quand elles arrivaient ici chez nous, dans notre association, elles arrivaient vraiment dans des situations très, très désespérées. Parce que ces femmes étaient vraiment malmenées, elles étaient soit enceintes, soit malades. Vous savez, pendant la guerre, il y a eu beaucoup, beaucoup de troupes armées ici chez nous. C'était tous ces gens-là qui étaient éparpillés dans la brousse qui commettaient ces forfaits-là.
Est-ce qu'il y a une explication?
C'était surtout pour humilier la femme. Et puis, il y a aussi ces pratiques-là fétichistes qui poussaient ces gens-là à commettre ces forfaits. Surtout côté, vous voyez, côté pygmées. Les pygmées, ils se sentent toujours diminués. Alors, ils ont pris les femmes des Bantous. C'était pour humilier les Bantous.
Voilà. Et Denise, quelle avait été la situation à Mitoaba où les Maïmaï ont régné en maître pendant un certain temps?
Aujourd'hui, à Mitoaba, l'enquête sur les cas de viol a été menée par le FNIAP lors de l'accalmie, c'est-à-dire après la reddition du chef de guerre Gédéon, selon Pascal Kalama, chargé d'appui à la synergie de lutte contre les violences sexuelles pour le compte du FNIAP au Katanga. Plus de 600 cas de viol de femmes avaient été enregistrés et une dizaine de cas de viol sur les hommes avaient été enregistrés donc à Mitoaba. Mais Pascal précise que ces chiffres ne représentent pas la réalité vu la sensibilité de la question. Toutes les victimes n'ont toujours pas le courage de dénoncer. On va écouter Pascal Kalama du FNUAP.
Pour ce qui concerne Mitoaba, il faut dire qu'au cours de l'année 2006 et une partie de l'année 2007, on a pu identifier 693 cas de violences sexuelles commis sur les femmes et 14 cas commis sur les hommes. Donc juste après les hostilités ou les différentes guerres civiles qu'il y a eu à Mitoaba entre les Mai Mai et les forces armées, juste après cette période, l'UNFPA dans le projet d'urgence a pu identifier ces victimes-là. Et parlant de la situation des Mitoaba, il faut dire que les 693 cas qui ont été identifiés, une fois de plus, ne reflètent pas la situation réelle. Parce que comme vous le savez, les violences sexuelles touchent à la dignité de la personne. Alors, porter à la connaissance de toute la communauté qu'on a été victime des violences sexuelles, et des viols en particulier, et surtout dans un contexte de guerre, n'est pas aisé. Et dans des communautés comme Mitoaba qui sont vraiment très reculées, ça n'a pas été très aisé.
D'autant plus aussi que les auteurs, c'était ceux-là même qui détenaient les armes.
Oui, en fait, les auteurs, c'était des gens qui détenaient les armes et qui étaient encore présents dans la communauté. Ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est que ces mêmes auteurs-là, ce sont des gens qui étaient issus de cette communauté. Donc, il y a eu des jeunes gens qui ont été forcés de violer leur propre mère, leurs propres membres de famille. Alors, il ne pouvait pas être facile pour une mère de dénoncer un acte de viol qui a été commis par son propre fils.
Alors, Denise, est-ce qu'il y a aussi d'autres territoires au Katanga qui ont enregistré à l'époque de la guerre plusieurs cas de viol?
Oui, il y a plusieurs autres territoires. C'est par exemple le territoire de Kabongo, dans le secteur de Kitenge, les territoires de Malembankuru, de Bukama, de Manono, de Kweto. Dans tous ces territoires, on a noté la présence de groupes armés. Mais si on doit revenir sur les causes ou les motifs qui poussait les hommes en armes à poser les actes de viol à Mitoaba jeudi.
Oui.
Pascal Dufnuap nous a déclaré que les motifs sont presque les mêmes comme c'est l'avancée pour Kalemi.
Mm-hmm.
Et à Mitoaba, les actes de viol ont pour entre autres raisons d'humilier les camps adverses et de prouver sa supériorité. On peut encore une fois écouter Pascal Kalama.
Après échange de viol, ont été, je peux dire, commises dans le cadre d'une sorte d'humiliation des communautés. C'est-à-dire les communautés qui ont pu résister, ou de manière claire, les villages qui ont montré une certaine résistance à rejoindre les forces de Gédéon, ont subi des représailles. Et là où les hommes ont été tués, les femmes ont été violées. Donc les circonstances étaient que c'est les soucis pour les Maïmaï, c'était d'abord d'humilier les communautés. Mais après échange aussi avec certains auteurs, on a pu dégager aussi que pour eux, c'était aussi une manière de s'affirmer, d'affirmer leur pouvoir, d'affirmer leur force sur les victimes.
Une manière d'affirmer le pouvoir, la force sur la victime. Denise Maïo, nous vous disons merci pour cet élément, pour toutes ces informations sur les différents cas de viol qui se sont déroulés dans plusieurs territoires dans la province du Katanga. Tout à l'heure, nous allons recevoir notre invité. Il s'agit de Marie Coutin, chef de mission de la Benevolentia. Avec elle, nous aurons beaucoup plus de détails sur le thème développé aujourd'hui. Pourquoi dans des conflits de groupes comme les violences interethniques, certains membres des groupes se livrent-ils au viol? Denise, pour l'instant, nous vous disons merci et à la prochaine.
Merci, Jody Kachama.
Okapi, c'est vous.
Marie Coutin, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour, vous êtes chef de la mission chef de projet Benevolentia, disons. Alors, la première question que nous vous posons aujourd'hui, quel commentaire vous pouvez avoir sur ces reportages, ces tableaux que vient de dresser notre consoeur Denise et les explications données sur les facteurs et influences qui peuvent mener au viol dans le Katanga, sont-elles similaires dans les autres zones en conflit dans notre pays?
Ben, tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est que le reportage est très intéressant. Je voudrais d'abord souligner qu'on parle aujourd'hui de choses qui sont très douloureuses et qui sont certainement très douloureuses pour de nombreux auditeurs. Donc j'encourage les auditeurs à ne peut-être pas nous écouter seuls, mais à rester entourés et à partager leurs émotions douloureuses, parce qu'on rappelle sûrement des mauvais souvenirs.
Oui.
Et le but, c'est de mieux prévenir les violences sexuelles pour qu'on puisse les ralentir, parce que ça reste très très grave dans certaines régions.
Oui.
Par rapport au reportage qui a été réalisé, il est très intéressant, parce qu'il fait ressortir plusieurs facteurs qui sont à la base de cette recrudescence de violences sexuelles, donc dans le passé, mais également aujourd'hui. Et je trouve que ce qui est intéressant par le biais de ces différents témoignages, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas une seule raison, il n'y a pas un seul facteur qui fait que aujourd'hui des groupes se livrent au viol.
Oui. Alors pourquoi Marie Coutin, pourquoi les viols perpétrés par des membres des différents groupes sont en continuelle hausse depuis ces dernières décennies?
Non, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, hein, bien entendu.
Oui.
Un facteur qui paraît bien entendu très évident, c'est l'impunité. Si on ne punit pas, on normalise les choses. Et ça, c'est valable pour n'importe quel crime, mais bien entendu pour les violences sexuelles également. Si on continue à ne pas punir les hommes armés des groupes réguliers ou irréguliers ou même les civils qui commettent ces actes-là, pour eux c'est considéré comme normal et donc ils vont recommencer. Et de même, quand on voit quelqu'un faire quelque chose de mal, si on voit qu'il n'est pas puni, eh ben on se dit « Ok, si lui il le fait, pourquoi moi je le ferai pas ?» Donc l'impunité est une des causes qui fait que le phénomène s'accentue.
Oui. Alors, quels sont les facteurs psychologiques qui peuvent mener des membres des groupes armés, rebelles et de l'armée à se livrer aux actes cruels?
Comme le montrait le reportage que vous avez réalisé, et comme montre aussi les conflits qu'il y a à l'est du Congo, ou les conflits qu'il y a eu en Sierra Leone, au Liberia et au Rwanda, il y a différents facteurs et qui sont pas toujours les mêmes car le contexte n'est pas le même. On peut pas comparer tous les conflits, bien entendu.
Oui.
Mais votre reportage a beaucoup parlé d'humiliation et de destruction. Et effectivement, le viol est de plus en plus utilisé pour détruire. En effet, quand on viole une femme, quand on lui détruit ses organes reproductifs, on l'empêche d'avoir des enfants. Donc on l'empêche d'avoir des bébés de cette ethnie qui est visée, qu'on veut détruire. Donc ça peut être un aspect. Ça peut être un autre aspect. Inversement aussi, peut féconder par la force des femmes pour qu'elles donnent naissance à des bébés qui sont de l'autre groupe.
Donc on
augmente la capacité de ce groupe. Ça, c'est deux raisons. Il y a des tas d'autres raisons. Votre journaliste parlait aussi de la peur et de la terreur. Effectivement, quand des groupes pratiquent le viol dans une localité, ça démontre une certaine dominance, une certaine force. Ça montre que le groupe est là, qu'il est présent, qu'il contrôle la situation et qu'il contrôle par la terreur. Et qui n'obéit pas sera puni. Elle en avait bien parlé.
Oui, Marie Coutin, oui. Comment expliquez-vous que des individus se livrent à des actes si douloureux? Ne réalisent-ils pas la douleur qu'ils commettent? Est-ce que c'est pour des raisons fétichistes? On a appris dans le reportage que certains le font pour c'est des pratiques fétichistes, d'autres c'est pour humilier. Alors comment expliquez-vous tout ça?
Ce qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est qu'on ne naît pas avec l'envie de violer. Par contre, et on en avait déjà parlé dans le passé, l'homme, quel qu'il soit, moi, tout le monde, l'homme apprend à devenir méchant. Donc à force de commettre des actes méchants, on commence pas par le viol, ça va être des petits actes de méchanceté, de violence. À force de les commettre, on s'y habitue. Donc ça, c'est un facteur. Il y a deux autres facteurs. Le deuxième, c'est que quand on est pris dans une idéologie de la destruction, de la guerre, quand on a un ennemi idéologique, plus on lui fait mal, plus l'image qu'on a est dégradante. Et plus on le voit comme mauvais, plus on le voit comme indigne, et plus on veut lui faire du mal. Et c'est pour ça que la cruauté s'accentue de plus en plus. Donc là, c'est vraiment les cas de violence extrême. C'est vraiment, et c'est rare. Et un troisième phénomène, c'est l'effet de groupe. Quand on agit en groupe, on agit plus facilement contre la morale, donc contre la morale familiale, religieuse, etc., etc.
Oui.
Sous l'effet du groupe, on se dit, si je fais pas comme les autres, alors on va me jeter, on va m'exclure du groupe.
Alors, Marie
Coutin, c'est trois facteurs qui peuvent l'expliquer.
Alors, comment le viol peut-il affecter nos valeurs et normes culturelles?
Je pense, si on prend le cas du Congo, puisqu'on parle du Congo, il y a beaucoup de valeurs culturelles, morales et religieuses autour du mariage. Le fait de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, le fait qu'une femme qui a des rapports sexuels avant le mariage n'est plus respectable, etc., etc. Donc le fait de violer une femme avant le mariage, en dehors du mariage, là on détruit une culture, on détruit des normes morales et religieuses. Et c'est un des moyens qu'on utilise pour affaiblir des communautés, moralement et aussi dans leur existence.
Marie Coutin, nous rappelons que vous êtes chef de mission bénévolentia en République démocratique du Congo. Pour l'instant, nous allons vous convier à suivre cette conclusion réalisée par Marcel Kankou.
Au Darfour, en Serbie et en RDC, des crimes contre l'humanité sous toute forme, y compris le viol, ont été fréquemment commis par tous les groupes armés avec des connotations identitaires. Ces événements n'arrivent pas spontanément. La violence évolue avec le temps parce que l'être humain apprend à devenir violent en commettant la violence à répétition. Une des visions la plus répandue du viol est de le définir comme une récompense pour remonter le moral des combattants. Aujourd'hui, cette vision change et des recherches montrent que le viol est plus que cela. Le viol est aussi un symbole de domination, un instrument de terreur, un moyen de féconder par force, un outil de destruction et de dissolution d'une culture. Le viol sert à torturer et à déshumaniser. Des recherches montrent que le viol laisse les cicatrices mentales très douloureuses sur les victimes et leur société. En fait, avec le temps, le viol vise à détruire des familles, des communautés et des cultures entières. Face à ce constat, nous sommes tous urgemment appelés à devenir des acteurs de la prévention des violences sexuelles. Nous, citoyens, leaders, hommes d'église, hommes, femmes et enfants, pourrions, par exemple, nous réunir à dénoncer tout acte de violence sexuelle, pour surmonter nos peurs des représailles et pour protéger les victimes. Soutenons-nous les uns les autres et dénonçons ces viols et leurs acteurs dans l'anonymat et par le biais d'ONG locales ou internationales des droits de l'homme. Essayons également de promouvoir nos valeurs culturelles comme le respect des femmes et leur place dans la société et enseignons ces valeurs à nos enfants et à nos proches. Ainsi, nous donnons les moyens à nos enfants de résister à ces groupes qui incitent à la violence sexuelle. Pour nous, messieurs, il est de notre devoir d'hommes de protéger nos femmes, filles et sœurs et de les accompagner quand elles vont chercher du bois, de l'eau ou champs, et ce surtout lorsque les communautés vivent dans des zones insécurisées. Et enfin, il est fondamental pour nous tous de résister à toute pensée de rejet que nous pouvons développer au sujet des victimes de violences sexuelles. Ces femmes ne sont pas responsables des violences qu'elles ont vécues. Pour cela, offrons-leur un soutien moral et amical pendant leurs soins médico-psychologiques ou pendant qu'elles plaident à la cour. N'oublions pas non plus de considérer ces femmes de la même manière qu'avant les événements douloureux. Notre pays traverse une période extrêmement difficile. Alors rappelons-nous que, même dans ces périodes difficiles, nous tous voulons vivre avec dignité. L'atteinte de la dignité passe par l'arrêt des violences sexuelles et nos efforts conjoints pour vivre ensemble dans l'unité et le respect de tous.
Merci à Marcel Kankou pour cette conclusion. Marie Coutin, nous rappelons que vous êtes chef d'émission bénévolentia en République démocratique du Congo. Nous allons tout à l'heure conclure avec vous. La dernière question sera peut-être de savoir quelle responsabilité pouvons-nous prendre en groupe ou individuellement pour prévenir les violences.
Je pense que Marcel en a un peu parlé dans sa conclusion.
Oui.
Malheureusement, il n'y a pas de remède miracle. Et par contre, chaque individu, chaque homme, chaque femme peut essayer d'agir.
Mm-hmm.
Marcel disait par exemple qu'il faut encourager les femmes à sortir en groupe, à sortir pendant qu'il fait jour, à ne pas aller trop loin. Ça, c'est déjà une chose. Mais j'aimerais attirer l'attention des hommes. Et je pense que les hommes ont beaucoup à faire pour que les femmes soient davantage protégées. Il faut plus qu'elles aillent seules au champ, il faut pas qu'elles aillent seules chercher de l'eau le soir, la nuit, etc. Donc ça paraît peut-être aller à l'encontre des habitudes de travail et de vie au Congo, ça je peux le comprendre, mais quand il s'agit de protéger des femmes, je crois que c'est très très important. Donc ça c'est une chose,
oui.
Et je crois que si tous ensemble, tous les Congolais commencent à vraiment dénoncer ces actes-là pour que les femmes soient respectées et que ces violences cessent je crois que c'est important que chacun s'y implique.
Marie Coutin, nous rappelons que vous êtes chef de mission bénévolentia en République démocratique du Congo. Nous vous disons merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et peut-être à la prochaine.
Très bien, merci, bonne journée.